Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et tous, et merci de vous accrocher et de rester pour cette notamment troisième table ronde qui sera suivie d'une dernière conférence. Ensuite, donc dernière table ronde qui en même temps va finalement fonctionner un petit peu en miroir de la précédente. En reposant un certain nombre de questions qui ont déjà été évoquées, peut-être sous un angle ou à une échelle un petit peu décalée. Donc, quelques mots de présentation justement des enjeux un petit peu de cette table ronde. Parmi les premières déclinaisons de l'histoire mondiale de la France, très vite sont apparues des histoires non pas d'État-nation. Alors, il y en a eu, bien sûr, on en a vu à l'instant, avec l'Italie, l'Allemagne notamment, mais des histoires de régions qui se pensent comme nations, voire qui aspirent elles-mêmes à devenir des États-nations, au moins pour certains segments des sociétés qui les composent. Ces histoires, ce sont en particulier La Storia Mondiale della Sicilia, qui est paru en 2018, donc vraiment un an à peine après l'histoire mondiale de l'Italie qu'on a évoquée il y a un instant, qui était sortie 9 mois après l'histoire mondiale de la France. C'est l'histoire mondiale de la Flandre, qui est aussi parue en 2018, sans qu'existe d'ailleurs à ce jour une histoire mondiale de la Belgique, ni même en projet à ma connaissance. Et puis c'est l'Historia Mundial de Catalunya, qui est aussi paru en 2018, la même année que l'Historia Mundial de España. Et donc on a, dès 2018, finalement, parmi les premières, en quelque sorte, déclinaisons, sinon imitations de l'histoire mondiale, trois histoires qui décalent d'emblée l'échelle à un niveau qu'on peut dire en français, en tant que français, même si tous ces termes sont assez chargés, régionaux. Et cette précocité, elle peut étonner, même si elle peut se comprendre à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est à première vue paradoxal, surtout à la lumière des critiques, des polémiques qu'ont pu susciter en France l'histoire mondiale de la France. Ce sont finalement, implicitement en tout cas, les interactions avec le monde qui semblent faire la nation. Puisque mettre en avant les interactions avec le monde d'une région, en l'occurrence la Sicile, la Flandre, la Catalogne, ce n'est pas au bout du compte la diluer dans une histoire mondialisée, mais c'est plutôt implicitement la poser comme nation. Il est assez évident que l'histoire mondiale de la Catalogne, lorsqu'elle paraît en même temps que l'histoire mondiale de l'Espagne, vise à poser la Catalogne sur un plan d'égalité avec l'Espagne, de manière au moins symbolique. Ce paradoxe, il faudra qu'on le rediscute d'ailleurs tout à l'heure dans la table ronde. Un deuxième niveau d'explication peut-être, plus prévisible, c'est que mettre en avant ces interactions avec le monde, c'est d'une certaine manière, là, plus explicitement, escamoter ou relativiser l'échelon de la nation dans laquelle la région est aujourd'hui incluse ou englobée, en l'occurrence l'Italie, la Belgique, l'Espagne. C'est l'effet miroir de la promotion d'une région en nation. Bah forcément, finalement, ça en vient aussi à, sinon forcément reléguer, en tout cas redimensionner l'échelon purement national, intermédiaire entre finalement ces régions et le monde. Puis un troisième niveau qui peut peut-être expliquer cette précocité des histoires mondiales de régions, un niveau plus implicite peut-être, mais évident lorsqu'on examine de plus près le choix des dates qui ont été retenues par les directeurs ou coordinateurs de ces volumes, et notamment qu'on compare le choix des dates de ces histoires régionales, entre guillemets, avec le choix des dates produits par l'histoire mondiale de la nation dans laquelle ces régions sont incluses, parce qu'on se rend compte qu'il y a bien sûr toute une série de dates différentes, mais il y a aussi beaucoup de dates proches ou communes qui se trouvent ainsi posées en miroir, un peu comme pour Charlemagne à travers les trois histoires finalement de l'Italie, de l'Allemagne et de la France. Et bien là, on va avoir finalement des dates communes entre l'Espagne et la Catalogne qui vont être traitées bien sûr de manière légèrement, voire plus substantiellement différente. Et donc mettre en avant ces interactions avec le monde, c'est en réalité à ce moment-là, on le voit, introduire et légitimer un niveau intermédiaire entre la région et le monde, celui donc de la nation, mais qui n'est qu'intermédiaire, qui n'est pas la fin en quelque sorte de cette histoire, et introduire finalement un jeu d'échelle plus complexe que le duo État-Nation-Monde par un trio, région, nation, état-nation, si l'on veut, et monde. À ce titre, d'ailleurs, l'exclusion des notices, qui était perçue sans doute comme trop régionale, de la traduction américaine de l'histoire mondiale de la France est à la fois étonnante, en tout cas moi ça m'a surpris, et en même temps significative, de la manière dont, vu des États-Unis, ce qui en France dans l'histoire mondiale relevait de la région a été finalement effacé. Et ça supprime, au regard au contraire des imitations dont je viens de parler, d'histoire mondiale des régions, finalement ça la supprime l'échelon régional, qui n'était pas mis en avant par le titre « Histoire mondiale de la France », mais qui était bien présent dans un certain nombre de notices d'histoire mondiale de la France, que ça concerne le Midi toulousain, la Normandie, le Nord même. Enfin, là, il y a eu comme ça une forme de réduction à la nation, à l'État-nation, dans la traduction américaine, qui est assez significative, je pense. Alors, en 2025, donc là, beaucoup plus récemment, est paru l'histoire européenne de la Lorraine, qui constitue un nouveau pas de côté, d'une certaine manière, puisque là, la déclinaison n'est pas immédiate, c'est une déclinaison plus éditoriale que foncièrement conceptuelle, je reviens dans un instant, une région qui ne se considère pas, donc la Lorraine, comme une nation, en tout cas aujourd'hui, même si elle a pu constituer à un moment de son histoire une part d'un ancien royaume, donc au moins d'un ancien proto-État, je dirais, à l'époque carolingienne, le royaume de Lotharingie, qui lui a même donné en partie son nom. Et puis, deuxième variation, je dirais, de l'histoire européenne de la Lorraine, c'est que l'horizon d'interaction n'est plus le monde, mais l'Europe, de manière explicite dans le titre. Un rétrécissement qui semble ajusté à cette absence de revendication nationale. Et c'est en ce sens-là qu'on revient au premier enjeu que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que finalement, les histoires mondiales ne posent pas les nations comme telles? Et à ce moment-là, pour la Lorraine qui ne se revendique pas comme nation, est-ce que ce n'est pas l'échelon européen qui, de nouveau, est le plus confortable? En tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve de nouveau avec un trio et non plus un duo, puisque dans l'histoire européenne de la Lorraine, on a bien la région, la nation malgré tout, la France, dans laquelle cette région est incluse, et l'Europe. Enfin, une potentielle histoire mondiale de l'Arménie, dont nous parlera Giusto Traina tout à l'heure, et une histoire mondiale de la Suisse, qui est tout près de paraître, relève en quelque sorte d'un autre cas, je dirais, d'espèce ou d'un autre jeu d'échelle. Je vais m'arrêter là plutôt sur le cas de la Suisse, dont l'objet éditorial est plus concrétisé, mais on évoquera le cas de l'Arménie dans un instant. Et d'ailleurs, pour le cas de la Suisse, moi-même, en préparant et puis en discutant, en échangeant avec Thomas David, il est apparu justement un certain nombre d'indécisions, d'imprécisions qui animeront sans doute la table ronde sur le statut entre État, nation et région de cet ensemble et des affaires de perception. Il s'agit donc d'un État-nation, là pour le coup, à la différence des cas précédents que j'ai évoqués, mais d'un État-nation singulier qui n'emprunte pas les chemins, on va dire, les plus communs d'entre eux, en tout cas à l'échelle européenne, à commencer par l'unité ou l'hégémonie linguistique, qui se présente aussi comme une forme politique plus singulière, la confédération, et qui renvoie donc de nouveau, même si c'est d'une autre manière que les cas que j'ai évoqués jusqu'à présent, à une plus grande complexité géoterritoriale, puisqu'on a d'une certaine manière trois ou quatre Suisses linguistiques, la Suisse confédérale, le monde à l'horizon, de nouveau en tout cas un feuilletage qui nous fait échapper au duo, je dirais, État-Nation-Monde, qui a été jusqu'à présent principalement évoqué. Alors, ces différentes expériences que nos trois intervenantes vont détailler, elles posent donc, d'une certaine manière, la double question de ce que fait le choix de l'échelle d'observation, deux questions qu'on a déjà commencé à évoquer, de ce que fait le choix de l'échelle d'observation, la nation ou la région, à l'histoire mondiale et à l'inverse de ce que l'histoire mondiale ou l'histoire européenne, dans le cas lorrain, dit de l'échelle d'observation lorsque celle-ci n'est pas un État-nation classique. Alors, pour évoquer et reprendre un petit peu ces différents questionnements, donc on a le plaisir d'accueillir donc trois... Alors, un intervenant virtuel qui s'est invité un petit peu, puisqu'on a légèrement recomposé le programme, pour introduire dans cette table ronde Josep Ramoneda, qui était intégrer dans la table ronde de demain sur les histoires mondiales et conflictualités politiques, on voit bien pourquoi, avec l'arrière-plan de cette tension entre Catalogne et Espagne, qui a récemment joué un rôle majeur. Mais finalement, il nous semblait plus cohérent de le réintégrer à la table ronde État-Nation-Région. Donc on va commencer par évoquer la Catalogne à travers une intervention de Josep Ramoneda, mais comme celui-ci est souffrant, il nous a envoyé finalement une petite présentation de l'ouvrage en vidéo par laquelle on va commencer, qui dure 8 minutes. Donc Josep Ramoneda, c'est un ancien professeur de philosophie de l'Université autonome de Barcelone, et puis qui ensuite est devenu essentiellement, principalement journaliste, publiciste, éditeur, et qui a collaboré donc à cette Historia Mundial de Catalunya. Et puis ensuite, donc, je donnerai la parole successivement d'abord à Justo Traina, professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne, aujourd'hui Sorbonne Université, historien de l'Antiquité romaine et méditerranéenne, depuis la péninsule italienne jusqu'à l'Arménie, qui a contribué donc à l'histoire mondiale de la Sicile, d'une part, qui envisage virtuellement, potentiellement, une histoire mondiale de l'Arménie, dont il nous parlera, et qui par ailleurs aussi dirige une histoire mondiale de la guerre, dont là l'objet est non territorial, enfin non prioritairement je dirais territorial, mais plus thématique, dont il nous dira aussi un mot. Puis ensuite, je donnerai la parole à Isabelle Briand, professeure d'histoire moderne à l'Université de Lorraine, qui a donc co-dirigé avec Laurent Jalabert l'histoire européenne de la Lorraine. Et enfin, je donnerai la parole à Thomas David, professeur d'histoire internationale à l'Université de Lausanne, et qui est un des quatre co-directeurs de cette histoire mondiale de la Suisse à paraître, aux côtés de Véronique Dazin, de Brigitte Studer et de Simon Teucher. Et donc, on va commencer par un petit film. Si j'arrive à sortir, ouais, ok.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je regrette de ne pouvoir être avec vous. Un grand merci pour me permettre d'intervenir à l'écran. Quelques considérations sur l'histoire mondiale de la Catalogne. Jaume Vicens Vives, éminent historien catalan, disait de la Catalogne qu'elle était par sa situation géographique un corridor européen où transitaient des idées, des expériences vers la péninsule ibérique, mais aussi vers l'Amérique latine et en partie de la Méditerranée. Dans ma préface à l'histoire mondiale de la Catalogne dirigée par Borja de Riquet, je me demandais s'il existe des histoires qui ne sont pas mondiales. Toute histoire qui cherche à faire autrement que l'idéalisation des mythes et des fantasmes domestiques doit être perméable aux différents courants qui viennent d'ailleurs. Les communautés qui n'ont jamais quitté leur cadre tribal se retrouvent vouées à l'isolement et à la décadence. Certains faits historiques catalans monnaie un retentissement international ou pour le moins européen. Et il existe une intense dialectique Catalogne-Espagne qui témoigne de l'étendue potentielle des expériences historiques. L'expression catalane, la sédimentation des faits et des idées d'origine diverse, européenne, mais aussi méditerranéenne et de l'Amérique colonisée. Et on pourrait en venir à considérer ce qui fait la différence entre l'histoire catalane et l'espagnol est essentiellement du fait de cette condition de corridor dont parlait Vicens Vives, une incidence plus grande de l'expérience européenne. N'oublions pas que le pays catalan de les Pyrénées orientales est appelé chez nous la Catalogne Nord. La Catalogne n'est bien entendu pas étrangère à la conquête de l'Amérique dont elle a participé, de même qu'elle n'est pas étrangère aux influences de l'Amérique latine renforcées par la diaspora de l'exil après la guerre civile et plus tard, dans l'autre sens, par l'arrivée régulière d'immigration latino-américaine depuis les années 60 et 70, c'est-à-dire dès lors que le marché du travail dans une dictature de Jean Declin a provoqué de nouveaux courants migratoires. On est passé en quelques années d'une dynamique à l'autre, du départ massif de travailleurs pour l'Europe à l'arrivée en plein essor de développement économique des travailleurs latino-américains et maghrébins. Et la Catalogne, avant-garde industrielle, a concentré l'ensemble de ces mouvements, reprenant la force de travail sud-américaine davantage encore au moment des dictatures de Kossuth. Et c'était pendant le franquisme, rappelons-le, que les États-Unis ont pénétré en Espagne avec leurs bases militaires. La particulière situation géographique de ce corridor européen. Il s'agit d'une entrée en Europe depuis plusieurs endroits, l'Amérique et l'Afrique, et d'une entrée en Espagne depuis l'Europe et la Méditerranée qui a défini la construction de la Catalogne tout au long de l'histoire. C'est un regard tourné vers le nord auquel vient s'ajouter comme entrée distinctive la particularité d'avoir une langue propre que la persécution franquiste, étant allée jusqu'à son interdiction, n'a pas réussi à effacer. L'histoire mondiale de la Catalogne, à laquelle j'ai fait référence, est constituée de 124 épisodes de la préhistoire, ses ancêtres habitant les cavernes en Aragon, il y a quelques centaines de milliers d'années, jusqu'à notre présent. Et l'original est une interrompue déclaration d'indépendance de 2017. Tout en passant pour le Xe siècle, le moment où les structures administratives qui vont donner lieu au statut de nation de la Catalogne sont nées, par la modernité, qui est le moment où le contact avec l'Europe fait accroître les différences entre la Catalogne et l'Espagne jusqu'aux tensions du premier tiers du XXe siècle, et les trois années de guerre civile, 1936-1939, qui précéderont la dictature et par l'immigration qui, à partir du développement des années 60, a consolidé la condition des pays et des carrefours de mestissage de la Catalogne. N'oublions pas qu'elle a été deux fois intégrée à la France, par la marque hispanique des Carolingiens, 8e siècle, et au 19e siècle avec l'éphémère intégration à l'Empire napoléonien. Des migrations, des guerres, des liens culturels dans ces terres catalanes qui ont été les premières avoir un récit les empreintes des Grecs et des Romains et dans sa moindre mesure de l'islamisation. Comme le dit Borja de Riquet à propos de l'époque médiévale et moderne, depuis le 11e siècle jusqu'au 18e siècle, la Catalogne a construit des institutions politiques, fiscales, juridiques et administratives assez solides pour que, une fois perdues, en laisser des traces différentielles permettant de situer la nation catalane dans cette dualité entre pouvoir économique et signification culturelle propre qui n'arrive jamais à échapper au poids de l'État espagnol. La paradoxe. La modernisation nourrit les différences entre la Catalogne et le reste de la société. Différences entre la Catalogne et l'Espagne, pourtant l'indépendance demeure toujours à l'état de rêverie. Nation en puissance incapable de devenir État en acte. Voilà la synthèse de l'histoire mondiale de la Catalogne. Je termine avec quatre exemples de moments de l'histoire de universelle de la Catalogne dans les siècles derniers. Pau Casals pendant les derniers jours de la guerre, la grève des tramways à Barcelone, le boom latino-américain et le retour du président Tarradellas. Le violoncelliste Pau Casals a reçu un doctorat honoris causa de la Université de Barcelone quelques heures avant l'occupation de la ville par les troupes franquistes. En janvier 1939, aussi bien lui que l'université incarnait une Catalogne moderne, européenne et démocratique au bord de l'effondrement. Il s'est installé par la suite à Prades de Conflent, près de Perpignan, un pays catalan, dans la Catalogne Nord, et il a entamé une tournée en Suisse afin de collecter des fonds pour les républicains en exil sous les menaces de Vichy d'abord, puis des occupants allemands. La déception de 1945, lorsque la libération s'arrête au Pyrénée, a fait de lui un homme aux engagements universels à partir de la douloureuse réalité catalane. Le boycott des tramways au printemps de 1951 a été le premier signe que l'immobilisme de l'après-guerre commençait à se briser. Le régime s'inquiétait de plus en plus d'une mobilisation qui avait des répercussions à l'étranger. Le Monde, Le Figaro et le New York Times s'en faisaient écho. Si l'ennemi avait mieux préparé, il aurait pu nous asséner un sacré cop, dira Carrero Blanco, un général de l'entourage de Franco, qui sera assassiné par l'ETA des années plus tard. Le boom latino-américain. Une nouvelle histoire forgée à Barcelone, 1964-1975. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa et José Donoso se sont installés dans la ville, tandis que Julio Cortázar et Carlos Fuente y venaient souvent. Ce sont les années de l'explosion littéraire latino-américaine qui allait être récompensée par deux prix Nobel. Et cela a généré un essor significatif de l'édition en catalan, ce qui favorisera l'épanouissement de l'édition dans ce pays et l'émergence de la gauche divine que cette exquise gauche littéraire a accompagnée. Cent ans de solitude était le symbole de cette époque qui a conquis le monde. La rupture entre García Márquez et Vargas Llosa au sujet de Cuba a mis fin au boom. Finalement, le retour du président Tarradellas. « Citoyen de Catalogne, me voilà ». C'est la célèbre phrase que le président de la Généralitat de retour de l'exil a prononcée le 23 octobre 1977 depuis le balcon du Palais de la Généralitat, le gouvernement catalan. Citoyen de la Catalogne, c'est-à-dire de la République, je suis de retour, la fin d'une parenthèse. Le président revient sur le balcon du palais qu'il avait été contraint de quitter. Une reconnaissance explicite du gouvernement catalan vaincu pendant la guerre civile, comme le dit Borja Enrique, la Catalogne dans l'universel démocratique. Il me semble qu'il s'agit de quatre moments qui évoquent la volonté d'un pays frontalier de se faire une place dans le monde, un territoire de transit qui a fait de sa différence, de son aspiration frustrée comme nation de devenir État, sa manière d'être en Espagne et dans le monde.
Je découvre avec vous là le film, et je dois avouer qu'il fait écho directement finalement à quelques mots que j'ai dit. Se terminer par une volonté de se faire une place dans le monde, ça dit bien un petit peu explicitement quel était un des projets en tout cas de cette histoire mondiale de la Catalogne, dont je rappelle qu'elle a été publiée dès 2018, la même année finalement que l'histoire de l'Espagne, et juste un an après l'histoire mondiale de la France. Mais donc je vais tout de suite céder la parole donc à Giusto Traina, que j'ai déjà présenté tout à l'heure, et lui confier. Et donc, une fois que j'ai ouvert, voilà.
Alors, Thomas Mazel.
Le rouge, ah bon, bizarre. Normalement, le rouge, c'est... Florian Mazel a défini notre table ronde comme l'examen d'histoire mondiale portant non pas sur des États-nations, mais sur des régions, comme dans toute leur variété. Une région frontière, parfois autonome, la Lorraine, une région à forte identité quasi-nationale, la Sicile, les cas singuliers de la Confédération helvétique, un État qui n'est pas un État-nation au sens courant, mais une somme de cantons, donc, des nations. La question est la suivante. Cette échelle régionale et ses rapports compliqués avec l'État-nation qu'il a souvent recouverte modifient-elles les horizons mondiaux de ces sociétés et notre manière même de les écrire? Ma présence ici relève elle-même de ces circulations. En novembre dernier, Patrick Boucheron m'écrivait par mail, dans la foulée de l'édition Revue augmentée de l'histoire mondiale de la France, pour me convier à ces colloques, dont le socle est le nombre d'adaptations, appropriations, de l'histoire mondiale de la France. Il avait pensé notamment à ma contribution à la Storia mondiale de la Sicilia. J'ai accepté avec joie, mais je souhaiterais préciser trois points. Un, j'ai également contribué à la Storia mondiale de l'Italia, avec un chapitre passablement orientaliste, mais Carlotta Sorba vient d'évoquer largement cet ouvrage, donc on n'en parlera pas. Mais deux, même si je suis effectivement sicilien, je suis par-dessus tout spécialiste de l'Arménie et du Caucase antique, donc je suis plutôt un orientaliste de service qu'un sicilien de service. Et trois, je dirige une histoire mondiale de la guerre qui va paraître fin 2026 chez La Terza pour changer. Mais Florian Mazel m'a rassuré. L'essentiel est de rester attaché à cette perspective des échelles régionales et au lien entre l'échelle régionale et l'histoire mondiale. Je peux donc commencer. Un dernier point. Pour mieux me Casé, je vous suggère, à cause de ma double affiliation, je suis émérite de Sorbonne Université et actuellement titulaire à l'Université de Salento, de me considérer donc comme un officier de liaison entre les codes suivis par les historiens de deux côtés des Alpes. Côté français, même si je ne suis pas agrégé, mais à culpa, je respecterai tout de même la tripartition traditionnelle et suivrait donc trois fils, la Sicile, l'Arménie, la guerre. La storia mondiale della Sicilia applique à Lille le format de l'histoire mondiale de la France, ou plutôt de l'Italie, une suite de dates, chacune ouvrant sur un ensemble, une date ancrage et un événement. Là, j'ai traité une seule date, 36 avant notre ère, la bataille de Nolloc. À l'usage des contemporanéistes, c'est l'événement militaire où Agrippa écrase la flotte de Sextus Pompée, une date sicilienne, mais aussi méditerranéenne, romaine, qui scelle la fin de la Sicile en tant que base de résistance et marque un tournant décisif dans la marche d'Octavien vers le pouvoir unique. Et il faut ajouter qu'en Italie, un format régional a des avantages concrets. Il mobilise des financements locaux, un public de proximité, une fierté identitaire, autant de conditions matérielles qui rendent ces livres possibles. Mais ce modèle pose un problème historiographique, celui du cadre. La Sicile, c'est facile. Excusez la rime, mais parce que c'est une île. Ses limites géographiques sont données et sa vocation méditerranéenne, grecque, phénicienne, romaine, byzantine, arabe, normande, etc., fait que le monde y est presque inscrit d'avance. En fait, parce que l'insularité favorise naturellement la connexion. Or, la plupart des régions italiennes n'ont pas cette chance. Que serait une histoire mondiale du Trentino-Alto Adige, entité composite récente, ou du Piémont, dont les frontières n'ont cessé de se déplacer? Les cadres régionaux, là, n'est pas un donné géographique. C'est une construction, souvent rétrospective, parfois anachronique. L'île sicilienne masque une difficulté que les régions continentales révèle crûment. Avant de mondialiser une région, encore faut-il être sûr qu'elle existe en tant que région. Maintenant, déplaçons-nous en Arménie. Permettez-moi d'abord un aperçu rapide, à travers quelques grandes dates. Aux origines, un mythe déjà mondial, l'Arche de Noé, s'abritant sur l'Ararat. Puis, une première mention vers 520 avant notre ère dans l'inscription de Darius Abeistoun. Armina, l'Arménie apparaît d'emblée comme le nom d'un pays inscrit dans un empire et dans un document étranger. En 66 de notre ère, Tiridate se fait couronner à Rome par Néron. L'Arménie est alors l'enjeu central entre Rome et les Parthes. Vers 301, date, disons, conventionnelle, elle devient le premier État chrétien. Vers 405, Mestrop Mashtots forge l'alphabet. En 387, elle est partagée entre Rome et l'Iran sassanide. Désolé, je suis antiquisant, donc j'insiste beaucoup sur ces dates. Mais son destin sera durablement celui d'un pays écartelé entre empires. On pense à Nice, sa chute au XIe siècle, le royaume de Cilicie, la première diaspora, la déportation vers la nouvelle Julfa en 1604, les génocides de 1915, la grande dispersion, enfin les républiques de 1918 et de 91, et tout récemment, l'exode du Karabakh en 2023. Bon, je dirais Artsakh quand même, et peu importe si quelqu'un va s'en offusquer. Et que nous dit cette série? Que l'Arménie a presque toujours été une nation sans État stable, partagée, recouverte, dispersée. Son histoire est dès l'origine relationnelle et impériale. Achéménides, romaines, parthes, sassanides, byzantines, arabes, c'est le... Bon, Jacques Prévert pourrait continuer. Et le monde n'y est pas un supplément, il est constitutif. C'est pourquoi je défends la formule Histoire mondiale de l'Arménie, contre celle séduisante de lieux de mémoire de l'Arménie. Le modèle des lieux de mémoire a été pensé pour la France en État-nation centralisée, dotée d'un territoire continu qui produit et entretient ses propres sites de mémoire. Appliqué à l'Arménie, se heurte à une difficulté de fond. Les lieux arméniens sont pour l'essentiel hors des frontières actuelles de la République d'Arménie. L'Ararat et Ani se trouvent en Turquie, la Nouvelle-Julfa en Iran, près d'Isfahan, la Cilicie, encore une fois en Turquie, les institutions de la diaspora à Venise, à Beyrouth, à Paris, à Fresno, Californie. Et la mémoire arménienne est déterritorialisée. Un cadre lieu de mémoire figerait cette histoire dans un registre nostalgique et victimaire, où l'on devrait admettre que ces lieux sont partout et nulle part. L'histoire mondiale, au contraire, prend au sérieux ce qui fait la singularité arménienne, la mobilité, la diaspora, l'enchevêtrement impérial, et transforme la dispersion en mode d'existence plutôt qu'un récit de déclin, et réintègre les relations avec Rome et l'Iran, mon terrain de chasse, comme une donnée centrale et non comme un décor. Là où le lieu de mémoire risque de nourrir le ressentiment ou l'irrédentisme, l'histoire mondiale s'ouvre et se relie. En somme, l'Arménie est le cas limite qui donne raison à Florian Mazel, et j'espère à Patrick Boucheron aussi, une nation dont l'échelle n'a jamais coïncidé avec celle d'un État-nation, et dont et d'où la critique corsée d'Eric Hobsbawm, qui disait « Ah oui, pour aller trouver un empire, il faut remonter à Tigrane le Grand ». Et désolé, de temps en temps, en rêver la nation n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, pourvu qu'on ne le transforme pas en souverainisme acharné. Et donc, il vaudrait mieux écrire une histoire mondiale de l'Arménie, bien évidemment avec une maquette plus élégante comme celle de la nouvelle édition de l'histoire mondiale de la France. Enfin, le label Histoire mondiale et la storia mondiale de la guerra. Je termine par quelques réserves critiques sur le label lui-même. Le succès de la formule Histoire mondiale 2 tient à ses vertus réelles. Elle démocratise, elle relie, elle enseigne la relation plutôt que le repli national, mais elle comporte des risques. Le premier est que le monde devient décoratif, une collection de connexions exotiques greffées sur un récit national qui, lui, n'est pas interrogé. Le deuxième tient à la structure par date, séduisante, pédagogique, mais fragmentaire, parfois pointilliste, voire antinarrative. Et le troisième est le plus paradoxal. Pour mondialiser la France, la Sicile, l'Arménie, il faut d'abord les présupposer comme deux entités, si bien que le format peut reconduire les cadres nationaux qui prétendent dépasser. Et c'est ici que la perspective change avec un objet tel que la guerre. La storia mondiale della guerra, que je dirige chez La Terza, à paraître fin 2026, ne parle pas d'un territoire ni d'une nation, mais d'un phénomène. Or, la guerre est par définition relationnelle. Il n'y a pas de guerre d'un seul. Prendre la guerre pour cadre, ce n'est pas mondialiser un récit national, c'est partir d'un fait humain, universel, pour en suivre les manifestations situées. On échappe ainsi au piège du nationalisme méthodologique. Les cadres sont d'emblée comparatifs et connectés. J'en tire une conclusion simple, mais en trois parties. L'histoire mondiale fonctionne d'autant mieux que son cadre est lui-même relationnel. Une île ouverte sur la mer, une nation dispersée entre les empires, un phénomène qui ne se conçoit qu'au pluriel. Le cadre de l'État-nation tend à faire du monde un ornement. Les deux cadres régionaux, thématiques, le rendent nécessaire. C'est peut-être la principale leçon que les régions et les guerres apportent à l'histoire mondiale des nations. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Et puis on va tout de suite, je dirais, enchaîner avec le deuxième intervenante et puis l'autre projet d'histoire régionale qui est celui donc de l'histoire européenne de la Lorraine, présenté donc par Isabelle Briand. Donc,
alors, merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette table ronde dans laquelle la Lorraine fait quand même un petit peu figure d'intruse pour continuer sur le propos de Giusto Traina. Le problème de la Lorraine, c'est que ce n'est pas une île et c'est même tout le contraire d'une île. Donc, dans l'ensemble des régions présentées au cours de cette table ronde, la présence de la Lorraine a de quoi surprendre. Elle n'appartient pas en effet au groupe des provinces ou régions dotées d'une forte identité culturelle, associée à une unité linguistique, voire à un cadre politique qui pourrait l'assimiler à une nation. Il s'agit en fait d'une région frontière, morcelée et disputée. La Lorraine, pour ceux d'entre vous qui n'en auraient qu'une idée vague, est un territoire bordé à l'est par l'Allemagne et l'Alsace, à l'ouest par les Ardennes et la Champagne, celle-ci d'ailleurs précocement placée dans l'orbite parisienne, au nord bordé par la Belgique et le duché de Luxembourg, au sud enfin par la Franche-Comté. Bref, tous des territoires depuis longtemps connaissant une identité affirmée. Dans l'histoire récente et même depuis la fin du Moyen-Âge, la Lorraine est à la fois morcelée et disputée. Morcelée ou du moins divisée avec deux principaux pôles urbains distincts, Metz d'une part, Nancy d'autre part. À partir du XVIe siècle, Metz fait partie, avec Toul et Verdun, des trois évêchés rattachés à la France. Alors que Nancy est à la tête d'un duché de Lorraine, dépendant formellement du Saint-Empire romain germanique, mais convoité, conquis, puis perdu par la France et finalement rattaché à cette dernière en 1766, à la mort de son dernier duc, qui se trouvait être un ancien roi de Pologne, Stanislas Leszczynski. Il faudrait, pour être plus exact, mentionner un second duché, celui de Bar, lié à celui de Lorraine, par le jeu des alliances matrimoniales. Ce territoire lorrain est également associé dans la mémoire collective française, et cela contribue à brouiller encore son identité. Il est associé dans la mémoire collective française à l'Alsace, puisqu'il s'est trouvé écartelé entre la France et l'Allemagne après la défaite de 1870, Metz et l'actuel département de la Moselle étant au cours de ces années rattachés au Reich. La Lorraine se trouve donc ainsi prise en étau dans une sorte de tectonique des plaques politiques dont rend très bien compte l'affiche de ce colloque, puisque l'histoire européenne de la Lorraine y est encadrée par deux histoires mondiales de la France et bordée par le haut par une histoire globale de l'Allemagne. On peut légitimement se demander quelle peut être alors la place accordée à une histoire non pas mondiale ni binationale, mais européenne de la Lorraine. Alors je tâcherai de répondre à cette question en la décomposant dans un premier temps, en me demandant pourquoi la Lorraine, puis pourquoi l'Europe et pas le monde, et pourquoi avoir choisi la longue durée. Alors, première question, pourquoi la Lorraine ? Je l'ai déjà signalé, il y a une sorte de paradoxe à vouloir s'emparer de l'histoire d'une région à l'identité non seulement floue, mais également tardive. La Lorraine trouve ses origines, certes, dans la Lotharingie carolingienne, mais elle n'est qu'une partie de celle-ci. En outre, du point de vue linguistique, elle comprend à la fois des zones de parler germanique et des espaces marqués depuis très longtemps par une prédominance du français, sans évoquer le maintien de certaines langues dans des communautés immigrées plus récemment. Je pense notamment à la communauté polonaise, à la communauté italienne et plus récemment encore à la communauté maghrébine. En revanche, il y a une longue tradition d'études historiques sur ce territoire et des équipes d'historiens au sein de l'Université de Lorraine avaient déjà produit une histoire de la Lorraine qui faisait partie des histoires provinciales ou régionales et éditées au cours des années 1970 par les éditions au Privat. Alors pourquoi finalement répéter une histoire de la Lorraine et pourquoi choisir l'échelle européenne? Alors pourquoi l'Europe et pas le monde? C'est donc la seconde question. Une histoire mondiale aurait été parfaitement envisageable, même si la Lorraine n'est pas une île. Et la question a d'ailleurs été posée lors de nos premières réunions. Notamment, on avait repéré le fait que certaines communautés mennonites sont passées par la Lorraine avant de migrer vers l'Amérique et donner naissance aux communautés Amish. Avant sa fermeture pour travaux en 2017, le musée Lorrain avait consacré une exposition au Lorrain sans frontières qui replaçait la Lorraine dans l'histoire des migrations à l'échelle mondiale en soulignant notamment l'importance des Lorrains émigrés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Mais le prisme mondial impliquait, et c'était de notre point de vue quelque chose d'assez gênant, un poids prédominant et presque exclusif de l'histoire contemporaine. Le choix de l'échelle européenne a été déterminé en grande partie par une considération très simple. La Lorraine n'a pas de façade maritime. Elle est par contre dotée d'un important réseau fluvial. Une histoire mondiale peut être possible pour certaines régions françaises. Il y a eu une histoire mondiale de la Bretagne, une histoire mondiale de la Catalogne, une histoire mondiale de la Sicile sont possibles, mais c'est beaucoup plus difficile pour la Lorraine, ou du moins, elle n'est possible que pour la période contemporaine. Si on voulait donc une approche sur le temps long, l'approche continentale réduite à l'Europe s'imposait. Alors pourquoi le temps long? Le premier article de l'histoire européenne de la Lorraine est consacré au 6e millénaire avant Jésus-Christ, le dernier à l'intégration au grand de la Lorraine au Grand Est en 2015. Alors, le choix de la longue durée est indissociable d'une volonté d'histoire globale au sens où nous voulions prendre en compte des phénomènes relevant de l'histoire culturelle, environnementale, religieuse, sociale et pas uniquement d'une histoire politique et militaire, même s'il ne s'agissait pas d'écarter ces aspects. Le temps long permettait également d'interroger la construction du territoire et de ses polarités. C'était donc la possibilité d'envisager une histoire de la Lorraine avant la Lorraine et par exemple de souligner qu'au IXe siècle avant notre ère, la Lorraine est déjà célèbre pour ses mines de fer et se positionne déjà au carrefour des routes entre la mer du Nord et la Méditerranée d'une part et des routes est-ouest qui relient la plaine européenne à l'Atlantique. Si l'échelle européenne s'est ainsi imposée à nous, il en a été de même de l'histoire mondiale de la France, qui a été, dès le départ de l'entreprise, pris comme référence. Alors, pourquoi avoir retenu ce modèle de l'histoire mondiale de la France alors qu'on avait choisi de changer de cadre et de passer au cadre européen? Pour plusieurs raisons. D'abord, cela nous permettait de sortir du récit linéaire d'une histoire, d'une région dont l'identité serait en quelque sorte révélée au fil des siècles. L'approche par date nous a permis donc de procéder, comme pour l'histoire mondiale, par coup de projecteur. Et ce que nous perdions dans la mise en valeur des continuités, nous l'avons gagné dans la perception de la complexité des situations à un instant T. Surtout, cela a permis de replacer la situation régionale dans un contexte plus large, fruit d'échanges, de rivalités, d'affrontements et parfois de simples recompositions. De ce point de vue-là, l'un des articles les plus emblématiques est celui sur le traité de Fougue de 1419 qui permet de replacer la Lorraine au cœur de l'élaboration des monarchies composites de la fin du Moyen-Âge. puisque ce traité prévoit le mariage de l'héritière du duc de Lorraine avec un descendant du duc de Bar, qui se trouve être René, qui sera plus tard duc d'Anjou, puis éphémère roi de Naples. La centralité acquise par la Lorraine dans le jeu politique européen n'était cependant que temporaire, et il fallait donc l'éclairage par date, l'entrée par date permettait de mettre l'accent sur ce moment particulier. Deuxième intérêt de retenir l'histoire mondiale de la France comme modèle, c'était la possibilité d'une approche par regard croisé. L'un des enjeux essentiels de cette histoire européenne était d'allier des approches à la fois de spécialistes d'histoire de la Lorraine, souvent lorrains d'ailleurs eux-mêmes, dont l'expertise était indispensable, et des regards venus d'ailleurs d'autres universités françaises ou étrangères. Parmi les historiens sollicités, tous n'ont pas répondu à l'appel, mais on peut relever parmi les contributeurs des historiens belges, allemands, britanniques, italiennes, hongrois, autrichiennes, ce qui rend compte de cette mosaïque lorraine, parfois indécise, mais qui rend bien compte des lignes de force et de tension en œuvre au sein de l'Europe. Ces interventions sur la Lorraine ont permis de replacer en perspective des dynamiques observables dans le cadre de la région quand la pulsion était étrangère ou lorsque des événements lorrains rencontraient des échos au-delà des espaces les plus proches. C'est le cas, par exemple, pour les articles qui portent sur le pèlerinage qui a une envergure véritablement européenne à Saint-Nicolas de Port, ou pour rendre compte de la présence des bataillons lorrains à la bataille de Boude, qui permet justement à Bude d'échapper à l'avancée ottomane, ou encore le moment de la naissance de l'école de Nancy, qui est la manifestation en Lorraine d'un mouvement plus large qui est celui de l'Art nouveau. Alors, autre élément important, cela nous permettait de jouir d'une grande liberté. Ce livre a été conçu dans le respect de la liberté du lecteur, qui peut butiner les notices qui l'intéressent, mais aussi la liberté des auteurs. Les entrées ont été pensées dans un échange entre l'équipe de coordination, dont je ne suis que la porte-parole, hein, nous étions 9 à coordonner cet ouvrage, donc entre cette équipe et chacun des auteurs et autrices. Et cela a permis de s'affranchir parfois d'une chronologie traditionnelle. Ainsi, nous n'avons pas d'entrée en 1766, qui est pourtant la date emblématique du rattachement du duché de Lorraine à la France. En revanche, nous avons retenu le mariage entre l'avant-dernier duc, François, et Marie-Thérèse de Habsbourg, parce que cette union, 30 ans plus tôt, est à l'origine directe du rattachement et est aussi significative de ce partage de la Lorraine entre une Europe plus centrale et la France. Je termine. Alors, on a souvent fait le choix de ne pas traiter des sujets attendus. Par exemple, on n'a pas d'article sur la ligne Maginot, au profit d'événements et de personnages moins connus, mais plus originaux pour le lecteur, et surtout qui collaient mieux à la problématique européenne. Par exemple, on a une notice sur la naissance en 1882 de l'école hypnologique à Nancy, qui devient au début de la Belle Époque le centre européen et même mondial de cette pratique thérapeutique originale, donc par l'hypnose. Cela nous a permis également, et je termine rapidement, à donner toute leur place à un certain nombre de figures féminines. Alors bien sûr, on ne pouvait pas échapper à Jeanne d'Arc, mais il y a aussi le mariage de Bruno, Marie de Guise, Madame du Châtelet, Marie Marvin, qui était une aviatrice de l'entre-deux-guerres, et puis aussi de rappeler l'importance des femmes ordinaires, puisque il y a une entrée sur la chasse aux sorcières en Lorraine, la Lorraine ayant été un épicentre de cet épisode. Donc, quant à la Première Guerre mondiale, qui est souvent indissociable de la Lorraine dans la mémoire nationale, elle n'est présente qu'à travers 1916 et Verdun. Et puis, ça nous a permis également de faire une place à la culture populaire, puisque on a retenu parmi les dates une date dont je crois j'ai oublié l'ancrage exact, mais qui est liée au foot et à la pratique footballistique. Donc dans la région et qui contribue très fortement à son identité. Voilà, donc je voudrais juste évoquer le public qui était envisagé. Nous avons d'emblée voulu un livre sérieux mais pas ennuyeux, abondamment illustré, publié, édité par un éditeur local qui est localisé à Strasbourg. Et nous n'envisageons pas, bien sûr, un succès mondial ni même national, mais les premiers retours ont montré que les lecteurs ont été assez nombreux et que cela les a parfois un peu déstabilisés dans l'idée qu'ils pouvaient avoir de leur région, et c'était finalement ce que nous ambitionnons. Et puis finalement, l'échelle européenne n'était peut-être pas si mauvaise que cela, puisque une histoire européenne de l'Alsace est, paraît-il, en gestation.
Merci, merci beaucoup. Et donc, je donne la parole à Thomas David pour le... Voilà, c'est ça. Pour la troisième... La dernière présentation, pardon.
Alors, je voulais commencer par dire que je suis très content et très honoré de participer à ce colloque, parce que les projets d'histoire mondiale qui vous ont été présentés aujourd'hui ont eu une grande influence sur ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, je vais vous parler d'un livre qui n'existe pas encore, puisqu'il va apparaître cet automne en deux langues, en français et en allemand. Et pour nous, c'était une évidence, mais en entendant la remarque tout à l'heure ce matin d'Elisabeth Leek, je pense que c'est vraiment important de souligner d'emblée que ce projet est bilingue. C'est-à-dire la moitié des articles sont en français, la moitié des articles sont en anglais, en allemand. Ils ont été traduits et tout ça. Et je pense que ce bilinguisme a eu une influence très importante sur la conception du projet. Et je pense que c'est eu... Oh, vous verrez, on pense tous que notre pays est un peu spécifique. Et là, j'ai appris ce matin qu'en fait, la Grèce aussi a ce modèle en trois langues, etc. Je reviendrai sur ce point. C'est très intéressant d'entendre parler des autres histoires mondiales des nations, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de similarités. J'aimerais aussi souligner que c'est un projet collectif. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quatre auteurs, et ce projet est soutenu aussi institutionnellement par la Société suisse d'histoire économique et sociale, et donc qui est l'une des deux associations d'histoire les plus importantes en Suisse. Alors, j'aimerais commencer cette présentation en vous montrant une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui a été vue par des millions de personnes. Alors, je m'excuse. Elle est en anglais. On pourra en discuter après pourquoi elle est en anglais, mais je vous laisse regarder.
We were going to buy Switzerland. Turns out it's not a real place.
It's true.
It's a fake country.
Switzerland does not exist. It never has. Just look at every single photo of Switzerland. That lake, too pretty. The snow, too perfect. Images clearly generated by AI. Or worse. Just think about it. Cheese soup? Soldiers armed with nothing but tiny knives? Swiss chocolate? I mean, chocolate beans don't even grow in Europe. This makes no sense. Have you been there? Do you know any actual Swiss people? Are you sure they are not just Germans in funny hats? It's easy to be neutral if you don't exist. Even their language, Swiss German, is completely made up. Gobbledygook, just listen to it.
Hold it up as a stackatory.
Tourists landing in Switzerland actually arrive in Austria, where professional actors are playing Swiss farmers, and cows are being delivered by helicopter. Swiss Eurovision winner Nemo is AI generated, just too good to be true. The shape of the Matterhorn is designed to hide a giant pyramid beneath it, built by an alien race of hyper-intelligent chipmunks. But who invents a country like Switzerland? The truth is, the King of Sweden invented Switzerland to control global financial systems using mind control through the audio frequency of yodeling and manipulate time by manufacturing every single watch in the world. Do your own research. Look at the evidence. Talk to your Swissified friends if it's not too late. And if you have images that prove the non-existence of Switzerland, send them to us. And don't fall for the lure of the image.
Ok. C'est pas moi qui l'ai faite. Hein. C'est une vidéo de l'artiste Carpi, alors, qui s'amuse à inventer une théorie du complot selon laquelle la Suisse n'existe pas. A été réalisée l'année passée pour la réouverture du musée de la photo à Winterthur, juste à côté de Zurich. Alors, elle est intéressante pour trois raisons. La première, c'est pourquoi faire une histoire mondiale d'un pays qui n'existe pas. D'accord ? Je pourrais revenir. La deuxième, c'est que c'est intéressant pour démontrer que la Suisse n'existe pas. L'artiste fait appel à des figures étrangères non suisses. Donald Trump, le roi de Suède, des citoyens et des citoyennes allemandes, des acteurs autrichiens. Et c'est normal. S'il y a un pays pour lequel c'est une évidence de faire une histoire mondiale, c'est bien la Suisse. Et j'aimerais juste vous donner un exemple qui illustre l'internationalisation de la Suisse. Il y a un institut de recherche à l'École polytechnique fédérale de Zurich qui publie depuis quelques années un indice de la mondialisation. Et cet indice est composé d'un nombre d'indicateurs, plus de 40, économiques, politiques, culturels, le nombre de magasins IKEA, par exemple. Et si vous regardez, en 2023, la Suisse est au deuxième rang des pays les plus mondialisés. Donc, notre ouvrage a voulu mettre en évidence l'histoire de ces liens profonds qui unissent les lieux et les régions de la Suisse au reste du monde. L'objectif du livre est en effet de montrer que depuis le Mésolithique, l'histoire du territoire qui correspond aujourd'hui à la Suisse ne peut être comprise qu'en l'inscrivant dans différentes conceptions du monde. Le monde en expansion des sociétés néolithiques tournées vers l'agriculture, celui de l'Empire romain et des cultures du Proche-Orient. Comme on peut le voir, ça c'est un des articles qui parle d'un panneau peint provenant d'Égypte romaine qui se trouve à l'heure actuelle dans un musée aux États-Unis et dont le matériau, le sapin, venait du Jura suisse. Et puis au Moyen-Âge, le monde d'un christianisme qui s'étend à la faveur des croisades. Et puis plus tard, à partir de l'époque moderne, la Suisse s'inscrit dans une interdépendance croissante avec le monde atlantique et les colonies, en soulignant, comme cet article, l'implication précoce de la Suisse dans la traite et l'esclavage. Je ne vais pas développer maintenant, je pense que je reviendrai sur ce point lorsqu'il y aura la discussion. Et puis, à l'époque contemporaine, la Suisse participe également aux visions internationalistes portées par différents acteurs, les anarchistes jurassiens, l'international communiste, la société des nations, ou encore le mouvement olympique, alors, qui a disparu, voilà. Vous savez sans doute que ben voilà, le siège du CIO, du Comité international olympique, se trouve à Lausanne. C'était une décision de Pierre Coubertin. Et si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous avez aussi appris que la FIFA, qui organise la Coupe du Monde de football, a son siège social aussi en Suisse, à Zurich. Et la Suisse participe aussi activement à l'internationalisation culturelle du marché de l'art, à l'instar d'Art Basel, qui est créé en 1968 et qui est désormais présent à Hong Kong, Miami. Alors, si j'ai cité cet article, c'est que depuis 2022, Art Basel est aussi à Paris, puisqu'elle a repris la foire internationale d'art contemporain, qui s'appelle désormais Art Basel Paris. Donc, deux points encore sur cette interrogation par rapport à la notion de mondial. Le dernier article montre que cette histoire se prolonge dans une conception du monde qui s'étend au-delà de notre planète. Le dernier article du livre, c'est 2026, aborde la partie. Le livre devait paraître en 2025, donc ça aurait dû être une anticipation, mais aborde la participation de la Suisse à l'exploration spatiale. Et puis, deuxièmement, Cette histoire mondiale de la Suisse inclut également les pays voisins qui ont eux aussi été profondément marqués par des dynamiques globales, comme on l'a vu et comme on va continuer à le voir. Et là, c'est... Et dans notre perspective, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les espaces. Tous peuvent contribuer à leur manière à une histoire véritablement mondiale. Et ici, c'est un article sur l'émigration italienne en Suisse qui a joué un rôle très important depuis la fin du 19e siècle. Vous voyez la photo qui montre un contrôle sanitaire à la frontière suisse pour ces immigrés, ces saisonniers du travail, qui, lorsque vous discutez avec les immigrés italiens en Suisse, a très souvent été vu comme une humiliation très forte. Et ce qui est assez intéressant, ce matin, tout à l'heure, on entendait sur l'histoire mondiale d'Italie, de Sorba Carlotta, qui me disait « il n'y a pas d'article sur l'immigration italienne après 1945, cette lacune est réparée, car cet article se trouve maintenant dans l'histoire mondiale de la Suisse ». Et c'est un point extrêmement important, parce qu'il faut savoir que plus d'un quart de la population qui vit en Suisse n'a pas la nationalité suisse. Alors, j'en fais partie, donc il n'y a aucun jugement de valeur et tout ça, mais cet article-là est très intéressant parce qu'il nous permet d'illustrer la question de l'immigration en Suisse qui joue un rôle très important. La vidéo que je vous ai montrée au début a un deuxième élément à mes yeux intéressant, c'est que lorsqu'on parle de la Suisse et de son histoire, on ne pense pas à des événements importants. Si je vous demandais, citez-moi une date de l'histoire suisse, à mon avis, à la rigueur, vous direz 1515, et c'est tout. Si je vous demande, nommez-moi un grand personnage, une figure importante suisse, vous allez réfléchir, vous direz peut-être Guillaume Tell, pour ceux qui lisent l'équipe, Roger Federer, mais autrement, il n'y aura pas grand monde. Et... vous allez penser, lorsque vous avez la représentation de la Suisse, c'est quoi? C'est des objets. Et on l'a vu dans la vidéo, c'est des montres, du chocolat, des banques, des couteaux, la fondue, ou des lieux, les montagnes et les montagnes et les lacs. Et avec ce livre, on a voulu illustrer la dimension mondiale de la Suisse, ses échanges et ses réseaux globaux, ses influences et ses inspirations qui viennent d'ailleurs. Mais on n'a pas voulu produire une histoire hors sol. Et les articles sont donc tous arrimés à un lieu et à un moment précis en Suisse. Regardez cet article, il y a à chaque fois la même chose, une date et après un lieu. Ici, il y en a trois qui assaut Brig-Genève, parce que c'était les trois lieux à la frontière par lesquels les Italiens passaient. Et j'ai l'impression que cette impression, cet accent mis sur la dimension spatiale est une spécificité de l'histoire mondiale de la Suisse. On pourra en reparler dans le paysage des histoires mondiales. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de mettre l'accent sur la chronologie, mais aussi sur ces lieux? Pour trois raisons. D'abord, un choix pédagogique. On veut toucher un large public et on voulait montrer que la dimension mondiale de la Suisse n'est pas une abstraction, mais concerne une grande partie de l'espace public et aussi privé. L'objectif est d'interpeller les gens. L'histoire mondiale de la Suisse peut se manifester au coin de votre rue. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième, il est politique. Comme vous le savez, la Suisse est une confédération composée de 26 cantons qui joue un rôle important dans la vie politique, sociale, économique du pays. Et l'ouvrage comporte des articles sur tous les cantons, pour des raisons, pour la paix sociale. Une des raisons, je reviendrai, il y a une autre raison qui est aussi financière. Mais un des points intéressants, c'est que, évidemment, le livre traite des cantons, villes, où la dimension mondiale est presque une évidence. Genève, Zurich, Bâle et tout ça. Mais le livre inclut aussi les cantons qui semblent a priori moins touchés par l'histoire mondiale. Par exemple, le canton de Nival, que j'ai mis en grand tout au milieu, qui se trouve au centre de la Suisse, entouré d'un lac et de montagnes, et qui fait partie de ce que certains appellent la Suisse primitive. Et deux articles illustrent l'histoire mondiale de Nidval, donc je vous rappelle, parce que ça rappelle les discussions qu'on a eues ce matin, un canton rural, montagnard. Le premier, c'est la lettre de Steins, publiée en 1807 par Pestalozzi, et qui est considérée comme l'un des textes fondateurs de la pédagogie moderne. Et ensuite, un article sur un personnage extrêmement intéressant, mais dont on n'avait jamais parlé. Elle s'appelle Constantia Wirsch. Elle est née en 1828 dans les colonies néerlandaises des Indes orientales, d'un père mercenaire suisse et d'une mère gouvernante et concubine indigène, et dont la vie s'étend sur trois continents, l'Asie, l'Europe en Suisse et elle va finir ses jours aux États-Unis. Un point intéressant, son frère deviendra la première personne racisée élue au Parlement fédéral à Berne. Et cette histoire de Constantia Wirsch est extrêmement intéressante parce qu'elle illustre certains des thèmes clés de l'histoire suisse, le mercenariat, la participation aux conquêtes coloniales, la Suisse comme terre d'émigration et d'immigration, on a tendance à l'oublier, et la dimension genre, parce que qui est très présente dans le volume, parce que l'une des quatre éditrices est une spécialiste de l'histoire genre. Et enfin, dernier élément, et ça, c'est vraiment lié à ce portrait de Constantia Wirsch, pour laquelle on a choisi de se concentrer sur la dimension spatiale très forte, on a déjà beaucoup parlé ce matin, donc je vais être assez bref, c'est une dimension historiographique. On a vu que la micro-storia et puis les réflexions plus récentes essaient vraiment de lier histoire locale et histoire globale, et on s'inscrit, nous, dans cette ligne. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a dit « voici les trois conclusions ». Moi, j'en ai qu'une. Si vous devez retenir qu'une conclusion des 10 minutes de ma présentation, c'est celle-ci. La Suisse existe, contrairement à ce que Ben, l'artiste, a fait, et c'était un grand... ça a suscité beaucoup de controverses parce que c'était lors de l'exposition nationale suisse en 92. Et donc, notre message est suivant. La Suisse existe et son histoire est mondiale. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour ces exposés très riches et qui rebrassent à la fois des questions qu'on a déjà abordées, mais on ouvre aussi un certain nombre de nouvelles. Comme on a bénéficié d'une pause généreuse tout à l'heure, et pour ne pas sacrifier le temps d'échange, on va finalement étendre la discussion jusqu'à la conférence finale à 17h30. Donc on dispose de une grosse vingtaine de minutes pour poursuivre ces échanges. Et j'aimerais les orienter dans un premier temps, avant de donner la parole à la salle peut-être, dans deux directions qui ont pour point commun d'articuler toutes les deux, je dirais, la question spatiale de manière différente que les projections justement d'emblée mondialisées. Tout d'abord, un premier, et donc finalement c'est une question qui s'adresse à tous les trois, et vous y répondez si vous avez envie d'y répondre, je dirais, de manière assez libre. La première, c'est, alors, j'ai bien aimé la déclaration de Justus Traina sur l'insularité favorise la connexion. Je suis pas sûr que tous les imaginaires s'y reconnaissent, en particulier le britannique. On a quand même des traditions qui font au contraire de l'île un facteur d'isolement plus que de connexion. Mais peu importe, ce qui est intéressant, ce que je retiendrai surtout, c'est que là, il y a un facteur géographique qui est posé comme un petit peu, sinon déterminant, en tout cas majeur, sur le plan, on va dire, des causalités expliquant le développement des interactions et des connexions. Et on l'avait déjà envisagé, cette question, ce matin, de nouveau, à travers l'Italie, où il y avait posé un petit peu comme cela le fait que la situation péninsulaire de l'Italie dans le monde méditerranéen, en quelque sorte, favorisait, prédisposait, intégrait en soi des dynamiques d'interconnexion. Et puis on a vu tout à l'heure aussi dans la vidéo de Josep... Ramoneda, qu'il évoquait, il commençait son exposé en disant finalement la destinée mondiale de la Catalogne, c'est parce que c'est un corridor. Et ça m'a frappé cette image, c'est-à-dire en fait de nouveau une sorte de primat de la géographie. Et j'aimerais vous interroger là-dessus. Alors pour la Lorraine, on a vu là aussi que finalement, même si l'horizon mondial avait été, je dirais, écarté par choix finalement plus que par nécessité, de toute façon, c'était bien cette situation géographique qui là n'était pas associée à un littoral ou une façade maritime, mais qui était quand même à l'articulation notamment des espaces germaniques et français, qui là aussi posait une forme de destinée. Et donc j'aimerais et pour la Suisse, alors ça n'a pas du tout été évoqué. Cette question de la situation géographique au cœur de l'Europe et à l'articulation d'espaces voisins, notamment d'États-nations pour ce qui est de la France, ou plus récemment en tout cas de l'Italie et de l'Allemagne, de ces espaces-là. Mais on a en revanche bien vu la dynamique identitaire liée aux montagnes et aux lacs. Enfin bref, donc j'aimerais revenir sur cette question. Comment vous voyez la part, en quelque sorte, de la géographie dans ce préalable qui était un peu implicite de, finalement, la région qu'on considère. C'est-à-dire, finalement, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est un donné de la géographie à partir dont on s'empare, ce qui serait assez paradoxal, mais je veux dire, voilà, premier élément peut-être, quelle place accorder à ces enjeux géographiques, et en particulier aussi au lien peut-être avec les façades maritimes, les littoraux qui sont arrivés récemment, quand on passe en revue la série des histoires mondiales, ben en fait, ce sont pour la plupart d'histoires mondiales où les enjeux d'exposition, on va dire, à la mer, aux océans et donc au grand large sont très très prégnants. Là, la Lorraine constitue une exception dans notre table ronde, il y en a d'autres, il y a la Hongrie par exemple, mais enfin de manière générale, il y a la question de la mer et des horizons maritimes, mais pour la Suisse, non. Donc là aussi, est-ce que cette question de l'ouverture au monde à travers les espaces maritimes, comment vous vous situez par rapport à ça? Je ne sais pas qui... Oui, Justo, en premier.
Oui, ben, d'accord. Bon, d'abord, sur les Britanniques, oui, c'est vrai, splendid isolation, mais c'est quand même... l'Empire britannique a été un empire mondial. Et donc, du coup, c'est une contradiction. Mais je voudrais en revenir à l'Arménie. Je suis désolé, bon, peut-être tout le monde ne se repère pas trop, mais il faut dire aussi une chose très importante à propos de l'Arménie. Et que, à partir du moment où on a la langue arménienne a été écrite, donc au 5e siècle après Jésus-Christ, on a commencé à créer des histoires d'un État qui n'existait plus. Ça me fait penser à la Renaissance italienne. C'est la même chose. C'est une grande floraison d'esprit. Il y a effectivement une historiographie qui mérite d'être lue. Il y a quand même des traductions. Et là, à partir d'un certain moment, il y a une coupure. Il y a une coupure qui coïncide plus ou moins avec l'arrivée des Mongols, donc dans notre grand empire qui bouleverse complètement toute la situation. À partir de ça, il y a un long Moyen-Âge, parce que la périodisation arménienne n'a pas le même Moyen-Âge que le nôtre. Le Moyen-Âge arménien se termine au XVIIIe siècle. À partir de ce moment, par les Lumières et d'autres stimulations qui viennent de Méditerranée, d'Europe, il commence à recréer une histoire à eux. Mais c'est une histoire, ce n'est pas une histoire de l'Arménie, c'est une histoire des Arméniens. Et en fait, il y a une grande contradiction qui réside justement dans la toponymie. En arménien classique, se dit « haïk », qui veut dire « les Arméniens ». C'est un toponyme assez banal, parce que même Paris, « parisi », donc ce n'est plus « lutetia », c'est le peuple, le territoire qui coïncide avec une tribu celtique. Et en Arménie, c'est la même chose. Et donc, du coup, quand on a Patmutyun Hayots, c'est-à-dire l'histoire de Haïk, ce n'est pas l'histoire des Arméniens, mais c'est l'histoire des Arménies. Il y a une ambiguïté qui fait la grande histoire d'un moment où, au XVIIIe siècle, il y a une grande floraison de la culture arménienne un peu partout. J'ai évoqué Venise, mais on pourrait parler aussi de Madras, en Inde. On a tous les marchands qui créent un réseau méditerranéen. Donc, en fait, l'Arménie se prête beaucoup à une histoire mondiale. Mais probablement, mais là peut-être j'exagère un peu, il ne faudrait pas la confier à un Arménien, du moins à un Arménien nationaliste.
Est-ce qu'il est possible de... Est-ce que j'avais une image? Ah oui, d'accord. J'aimerais revenir sur la question de l'île comme facteur de connexion. Ça, c'est une carte postale. Voilà.
La dernière.
C'est une carte postale de la Suisse durant la Première Guerre mondiale. D'accord ? Et on voit très bien, la Suisse est une île qui est symbolisée par le bâtiment des autorités politiques, etc. C'est une île qui est perchée sur des hautes falaises, entourée d'une mer grondante, dont les vagues tumultueuses menacent de détruire les pays alentour. La Suisse est un Sonderfall. Donc on voit de quelle manière est-ce que la notion d'île peut être utilisée de manière assez différente. Et le deuxième élément, c'est votre analogie que j'ai trouvée très intéressante sur... le fait que l'insularité fabrique naturellement de la connexion, c'est très brodélien. Voilà, il y a dimension, vocation méditerranéenne et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des élèves suisses de Fernand Braudel, qui s'appelle Jean-François Bergier, a écrit un livre sur les Alpes. Et il a montré de quelle manière, en fait, les Alpes ont fabriqué de la connexion entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud et ont fait de la Suisse un lieu de passage internationalisé dès l'époque médiévale. Et donc, on voit de quelle manière cette dimension géographique doit être pensée vraiment dans sa multiplicité, parce que la Suisse n'est pas une île, elle a une marine marchande. Un des articles, vous ne le saviez pas, mais un des articles retrace justement l'histoire de ces marins suisses et de la création d'une marine marchande en Suisse dans les années 1940, avec différents projets. Je pourrais aussi vous parler, mais je ne vais pas monopoliser la parole, aussi sur la participation des Suisses à la Suisse à la traite et à l'esclavage, où voilà, il y a accès aux mers et tout ça par le biais des réseaux protestants et tout ça. Mais je pense que le point important, c'est ça, c'est qu'on voit que l'insularité, les îles peuvent servir de connexion, mais les montagnes peuvent aussi jouer ce rôle-là. Et c'est vraiment un des points qui est souvent mis en avant, c'est que les Alpes ont joué un rôle très important de connexion entre les différentes régions de l'Europe, et la Suisse a été un lieu de passage, et c'est donc très vite internationalisé.
Oui, je voudrais juste continuer dans ce sens-là, en soulignant que ce qui est important, c'est peut-être moins le contexte géographique que la mobilité des hommes. Si on vit dans une île et qu'on n'en sort pas, je pense qu'on n'éprouve pas le besoin d'écrire une histoire mondiale de son île. Si on vit dans les montagnes et qu'on n'en sort pas, on n'a pas besoin non plus d'écrire une histoire mondiale des montagnes. Et je pense que cette approche de l'histoire par l'ailleurs est liée, vous avez tous les deux mentionné les diasporas, est liée au fait que certains quittent cet espace et donc se réapproprient d'une certaine façon leur histoire, se réapproprient ce territoire par l'histoire.
Oui, oui, allez-y.
Si je peux ajouter une petite remarque à ce que Thomas vient de nous expliquer. En réalité, nous avons la fonction des Alpes dans un pays politiquement neutre. Mais les Alpes, ailleurs, ont été considérées, à un moment donné, comme une frontière naturelle. En Italie, à partir d'un certain moment, à partir de l'unité de l'Italie, les géographes ont commencé à réfléchir sur la fonction des Alpes. Ils ont même voulu inquiéter la géographie de l'Italie romaine pour montrer qu'en fait, il fallait revendiquer ces régions. Donc, du coup, on a des Alpes à géométrie variable.
Oui, juste, je rebondis un peu sur cette question, notamment sur la question des diasporas, pour une deuxième peut-être tour de table, avant de donner pour une ou deux questions la parole à l'Assemblée. Toujours sur l'articulation entre temps et espace. Dans l'histoire de la Suisse, effectivement, vous avez mis l'accent sur cette articulation entre une date et un lieu, ou plusieurs lieux, mais enfin sur le binôme, en fait. Et je trouve ça tout à fait intéressant, et ça rejoint... Ça rebrasse des questions qu'on a aussi envisagées ce matin, c'est les effets territoriaux que produisent justement, on va dire, les connexions, les interconnexions, aussi bien au sein du territoire qu'effectivement à l'extérieur. Et donc, ma question, ça serait finalement justement de quelle est la part en quelque sorte de ces interconnexions, de ces échanges à l'échelle, alors de nouveau européenne ou mondiale selon vos ouvrages, mais dans la différenciation des espaces, justement, des espaces qui sont plus ou moins connectés, plus ou moins, je dirais, mondialisés, parce que finalement, dans l'espace suisse, vous aviez essayé d'être intégrateur jusqu'au centre, mais il y a malgré tout des enjeux de degré, on peut quand même imaginer des enjeux de mesure. Donc sur la question de la différenciation territoriale, et ça vaut d'ailleurs pour les États-nations comme pour les régions, là, il n'y a pas de véritable différence. Et puis la deuxième question, c'est l'intérêt effectivement qui a été souligné de cette perspective d'histoire mondiale, d'intégrer des lieux hors nation, hors territoire national ou hors territoire régional, à travers à la fois soit des lieux de mémoire, soit des lieux diasporiques et tout ce qu'ils peuvent charrier avec eux de projection mondiale d'emblée, des petites Italies, des petites Chines ou des petites Lorraines et des petites Italies aussi, voire des petites Suisses, pardon, ailleurs. Donc est-ce que ces deux niveaux, là, sur la manière dont finalement ces interconnexions produisent des différenciations spatiales à l'intérieur et aussi des projections spatiales à l'extérieur. Est-ce que vous vouliez rebondir, nuancer, corriger ou compléter?
Alors, je voulais revenir à ce qui vient d'être dit sur les Alpes à géométrie variable. C'est très intéressant parce que c'est aussi un concept qui est utilisé pour la neutralité en Suisse. En parlant de neutralité à géométrie variable durant la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale, qui fait des concessions aussi bien aux Allemands qu'aux puissances alliées, etc. Donc, je suis d'accord avec votre interprétation des Alpes comme à géométrie variable, parce que pendant longtemps, une partie de l'historiographie les a vues aussi comme frontières entre la Suisse et l'Italie ou entre la Suisse et la France. La deuxième question sur les lieux hors du territoire, pour nous, il y en a un certain nombre. Par exemple, un des articles, c'est l'une des premières missions après la Deuxième Guerre mondiale de la Suisse comme acteur qui va essayer d'imposer une certaine neutralité au cours de la guerre froide, c'est qu'elle envoie des soldats suisses avec des soldats suédois, tchécoslovaques et hongrois, si mes souvenirs sont bons, à la frontière entre les deux Corées. Et donc, on aurait pu, et tout l'article est basé sur cet endroit, sur ce village suisse entre les deux Corées, où ils mettent des drapeaux de tous les cantons, etc., où ils recomposent une mini-Suisse, etc. Et il y en a d'autres. Mais on a décidé que le titre de l'article faisait référence non pas à la Corée, mais à Berne, le lieu où se trouvent les archives qui ont permis de faire ça. Donc, ça a été un choix éditorial, c'est... On a triché un peu, il ne faut pas le dire, mais des fois, le lieu en Suisse est un peu artificiel parce que la grande partie de l'article est liée à un lieu étranger, tout ça. Et puis le dernier point sur est-ce qu'il y a certaines zones qui sont plus exposées que d'autres à l'histoire mondiale, c'est difficile à dire parce que, par exemple, on a deux articles sur 1918 et 1919. 1918, c'est la grève générale. Voilà, les syndicats, les mouvements ouvriers, inspirés par la révolution russe et par la révolution allemande, décident de faire une grève générale. L'armée intervient, tire, et il y a plusieurs morts. Et c'est devenu vraiment, pendant quelques années, c'est redevenu un lieu extrêmement important. Et là, on voit que les lieux, c'est évidemment les grandes villes, mais c'est aussi des petites villes de l'intérieur du pays qui sont très industrialisées. Et de même, par exemple, pour la grippe espagnole, 1919, l'autre article, il est illustré à travers la trajectoire d'un soldat qui vient de l'intérieur du pays, qui est mobilisé et qui meurt de la grippe. Et semblerait-il que la grippe espagnole a eu beaucoup plus d'impact à l'intérieur de ces régions montagnardes du fait de la mobilisation que dans les grandes villes. Donc ça dépend vraiment, et voilà, ces territoires montagnards, etc., dont j'ai parlé, sont au centre de ces échanges, sont aussi liés à des internationales catholiques, etc. Donc de dire certains sont plus mondialisés que d'autres, c'est difficile. Même un canton, alors je ne sais pas si j'arrive à voir... Non, vous arrivez à me redonner le... Voilà.
Normalement, oui, oui.
Vous voyez le Zug, qui est juste en dessous de Zurich. principal. Zoug, c'est le cœur, c'est vraiment un canton qui est au milieu de rien, si j'ose dire. J'espère qu'il n'y a pas de Zougois dans la salle, parce que. Mais c'est le cœur du capitalisme international, dans un certain sens. Pourquoi ? Parce que les grandes compagnies de transport de matières premières, genre Glencore, ont leur siège à Zoug, pour des raisons fiscales, mais pas uniquement. Et d'autre part, Zoug est en train de devenir le centre de. Comment on appelle ça ? La crypto, etc. Et on appelle maintenant Zoug la crypto-vallée suisse, parce qu'elle est en train de se positionner. Donc on voit aussi de quelle manière, selon les phénomènes, là, Zoug joue un rôle très important dans le capitalisme international. Voilà.
Oui, c'est Angoulême de ce matin avec Emma Rothschild, finalement. Pardon, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et donc, on va mettre un terme à cette table ronde.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.